Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de La Nuit des Divas, il est 22h30 sur Radio Campus Paris.
La Nuit des Divas, un lundi sur 4 à 22h30, sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission sur la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. C'est toujours un plaisir de se retrouver, surtout qu'aujourd'hui on a préparé un épisode assez particulier. Le format, disons, classique de l'émission est de parler d'une artiste en profondeur chaque mois. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter les précédents épisodes, on avait parlé de Elisa et Ossol. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place un moment différent, puisque je suis ce soir aux côtés de Tassa, avec qui on va échanger. Donc je te laisse te présenter en quelques mots.
Donc je m'appelle Charlotte Tassadit, mais on m'appelle Tassa. Donc je suis franco-marocaine, donc du côté marocain, je suis originaire du Rif, dans le nord du Maroc. Et je suis journaliste culturelle et manageuse, donc manageuse d'un rappeur et d'une DJ qui sont tous les deux aussi marocains.
Et c'est quoi, on va dire, un peu le rapport que tu fais, toi, par rapport aux artistes qu'on évoque dans cette émission? Est-ce que tu as un lien particulier avec elles? Tu te sens proche d'elles?
Alors c'est un peu compliqué le rapport que j'ai aux chanteuses arabe en tant que tel, parce que du coup, comme je le disais, je suis originaire du Rif, donc ça induit que dans mon éducation, le terme d'arabe, il est un peu particulier, le rapport à l'arabité est un peu particulier, dans le sens où on se considère d'abord comme amazir, donc comme berbère, mais amazir étant le vrai terme, berbère étant le terme colonial du coup.
Ok.
Parce que c'est décliné de barbare, donc du coup, alors que amazir, ça veut dire, littéralement, ça veut dire l'homme libre.
Ok.
Et donc du coup, voilà, c'est le fait de, comment dire, d'avoir une revendication identitaire amazir, c'est aussi se revendiquer et se rallier en fait à une histoire anticoloniale. Le Rif en plus, qui a une histoire assez particulière, puisqu'elle n'était pas sous protectorat, enfin c'est une région qui n'est pas sous protectorat français, mais sous colonisation espagnole jusque dans les années 50, fin des années 50, et qui encore aujourd'hui a une histoire politique et sociale assez complexe, qui est assez, par sa langue, par sa musique, qui est assez distincte en fait du reste du Maroc, et qui est très proche de l'Algérie. Donc ça fait que du coup, mon rapport à la musique, et notamment aux chanteuses, ou globalement aux chanteurs et aux chanteuses, il est lié à l'Algérie. En plus, en tant que diaspora française, ou enfin diaspora maghrébine en France, il y a beaucoup d'Algériens. Donc en fait, tout ton développement identitaire et culturel, en tant que maghrébin de France, il se calque beaucoup sur les Algériens, en fait.
Ok, je vois.
J'ai grandi dans le sud, près de Marseille, donc il y a une grande diaspora algérienne, des diasporas algériennes, parce que c'est très varié. Et c'est très complexe aussi le sud et les Algériens ou les descendants de colons algériens, enfin bref, c'est assez compliqué.
Ouais.
Mais ça induit que mon rapport aux chanteuses arabes, pardon, il est un peu particulier, un peu...
Okay.
Je t'aime moins non plus parfois.
Ouais, c'est hyper compliqué, mais c'est aussi la question de l'identité de soi, en fait, puisque tous les liens qu'on va venir créer avec l'art ou tout autre domaine, on va dire, intellectuel, il est on va dire, biaisé par ça, en fait.
En fait, c'est qu'il y a un biais très particulier, parce que c'est un gros sujet, mais il y a un biais très particulier des cultures arabes en France. Et dans le sens, quand je dis vraiment arabe, c'est l'Afrique du Nord et les autres pays qu'on considère comme des pays arabes, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ou qu'on appelle le monde arabe. C'est un terme avec lequel j'ai un petit peu du mal.
Le monde arabe ?
Ouais.
Ah ouais, okay.
C'est un terme colonial qui a été posé par des historiens anglais au XXe siècle, et en fait qui réduisait en fait les particularismes de beaucoup de peuples dits arabes, et en fait qui invisibilise en fait toutes les subtilités et la diversité des peuples du Maroc jusqu'en Syrie, en Palestine, en Irak, etc., etc. Et du coup, ça fait que le rapport aux chanteuses arabes en France, il est très biaisé et il est très particulier, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a sélectionné certaines figures, qu'on les a...
Comme qui? Tu penses à qui?
Oulkem Toum, par exemple, qui est une artiste extraordinaire, en vrai. ou Férouz. Bon, j'adore Férouz. Elle a une voix qui me touche énormément, mais c'est vrai que c'est des figures qu'on a tendance à placer comme ultra anecdotiques et qui en fait auront le monopole Enfin, c'est pas elles qui ont le monopole parce que
on leur a donné,
on les a forcées ouais. en fait à être des enfin peut-être c'est un peu tiré par les cheveux de les placer comme ça, mais comme des tokens ouais, au détriment d'autres artistes,
enfin des représentantes en fait de ce qu'une chanteuse dans le monde arabe est, alors que on peut pas rassembler toutes les femmes sous une femme unique.
Exactement. Et donc, du coup, c'est ça l'écueil, en fait. Quand t'es issue de l'immigration et que t'es une femme ou autre, tu vois, c'est qu'en fait, tu pourras te sentir concernée ou représentée que par une seule personne qui représentera unilatéralement et inconditionnellement toutes les autres.
Ouais.
Et c'est indiscutable et on ne peut pas revenir dessus. Et c'est ça aussi la difficulté, en fait, d'être... d'être issu de l'immigration, c'est que déjà, tu as le phénomène de déplacement qui fait que, tu vois, ça déblaye énormément et tu laisses derrière toi, en fait, toute une culture, tout plein de subtilités, une diversité d'artistes, de sonorités, de savoirs, bref, tout ce que tu veux. Donc déjà, le mouvement migratoire fait que tu ne peux pas tout emmener dans ta valise.
Bien sûr.
Et qu'en plus, y a la misogynie. Ou autre, le classisme, l'homophobie, etc. Qui fait que on va avoir tendance à sélectionner. Et c'est vrai que déjà il y a un monopole des artistes hommes dans les musiques arabes et dans ce qu'on va préserver en tant que diaspora. Et après, dans un second temps, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes, et les peu de femmes en fait sont pas forcément représentatives, dans tout cas ce qui me concerne en tant qu'amazir en fait.
Ok, ouais, je vois. Mais donc toi, ce serait quoi une des figures par exemple qui t'aurait beaucoup marqué sur ce plan là en fait, une figure par laquelle tu t'es peut-être sentie représentée ou à laquelle tu t'identifiais particulièrement, donc une figure de grande d'artiste.
Je sais pas si je me sens représentée dans le sens où je suis franco-marocaine, donc mon père était aussi blanc, donc déjà se sentir légitime à être représentée par une artiste qui vient d'Afrique, en l'occurrence, c'est un peu compliqué pour moi. Après, effectivement, l'histoire de mon éducation et ce qu'on me transmet.
C'est ça, en fait, c'est là que ça se joue, je pense.
Il y a ça, après il y a aussi la distance, la barrière de la langue, qui fait que c'est difficile de me sentir concernée par la langue puisque je parle pas l'arabe. Donc, donc justement, ça se rallie plus à des sonorités qui vont me toucher, qui vont réveiller certains sentiments. Mais comme je te disais, l'histoire familiale. Donc du coup, il y a Shira Rimeti que mes grands-parents écoutaient beaucoup. Enfin, je les ai pas connus, et donc ma mère me disait, et me dit encore que mes grands-parents écoutaient Shira Rimeti, donc qui est une artiste algérienne, du coup, et que ma mère écoute, et que donc du coup j'ai écouté.
D'accord.
Mais c'est pas en tant que je me sens pas représentée par Shira Rimeti en tant que femme ou par ce qu'elle dit dans ses sons ou par ses sonorités, mais c'est que c'est une artiste qui va par un sens, donc par l'ouïe. Réveiller un lien ou entretenir un lien que je n'ai plus avec mes grands-parents.
D'accord.
C'est par la musique que je peux garder un lien mémoriel, identitaire ou juste affectif avec mes grands-parents que du coup j'ai pas connus.
Ouais, non, je trouve ça hyper beau en fait, cette manière dont justement la musique et l'art en général, ça a le pouvoir, ça a la capacité en fait de pouvoir justement nous rallier en fait à quelque chose qui peut nous sembler lointain mais qui en soi, même sur le plan génétique, ne l'est pas tant que ça. Et ouais, c'est ce sentiment de familiarité. Mais quant à Shira Rimeti, est-ce que quand tu penses à elle, tu penses à un morceau en particulier? Est-ce qu'il y a un morceau d'elle qui t'a frappé? C'est quoi?
Milouda.
Thank you.
ميلوده ويا ميلوده ويا ميلوده على الله خلي لي خويا ويا ميلوده يا ميلوده ويا ميلوده ويا ميلوده ولا لا خلي لي خويا ويا ميلوده اها اها
On vient donc d'écouter Milouda de Cheikh Haremiti. Milouda, qui tu me disais, est une légende
amazigh.
Ok.
Et donc du coup, c'est un son que j'aime énormément parce que déjà l'introduction est longue de ouf. Et qu'on aime beaucoup les longues introductions.
Ouais, ouais, ouais.
Et que ouais, effectivement, Milouda, c'est une légende amazigh. Et dans le riff, il y a beaucoup de chansons et même d'artistes qui s'appellent Milouda.
D'accord.
C'est un nom, un prénom qui est assez récurrent.
Quant à la musique, du coup, amazigh, est-ce que tu penses que tu considères qu'il y a une spécificité en fait à cette musique-là, justement, si on l'apprend indépendamment de ce qu'on considère comme étant la musique arabe.
Pour Cheikh Haremiti, du coup, c'est vraiment une précurseuse du raï.
Ouais.
Elle s'appelle Haremiti parce qu'en fait, elle a commencé à performer dans les bars et que le raï est né dans les bars à Oran. Et donc, Haremiti, ça veut dire remettez, ouais, reservez-moi à boire. Et donc, Cheikh Haremiti, c'est vrai qu'aussi, elle est grave, un petit peu évincée. de l'histoire, en tout cas dans les diasporas, de l'histoire du raï, parce qu'elle elle a des paroles qui sont assez crues, transgressives.
Ouais.
Même pour l'époque, c'était...
Bah, elle parle de sexualité,
d'alcool, de célibat, de chagrin d'amour, etc. Et donc du coup, Sheikha Rimeti, du coup qui est algérienne, qui est la précurseuse du raï, le raï qui est né à Oran et dans la région de Oran et dans le Rif, en fait, on est très proche culturellement d'Oran, de Tlemcen, donc que ce soit par la langue et que ce soit par les sonorités. Donc il y a pas fondamentalement de musique, il n'y a pas la musique amazigh. Il y a autant de sonorités de musique amazigh qu'il y a de peuples, voire qu'il y a de tribus, voire de villages. Parce que je pense que chaque peuple, selon ses époques, a ses spécificités musicales et des sonorités très particulières. Tu vois. Après, pour ce qui est de la région, du Rif et du pourtour de Tlemcen et de Oran, du côté du Rif, on appelle ça le reggaeda.
Okay.
Du côté de l'Algérie, on appelle ça alaoui, mais c'est en vrai, c'est la même chose. Donc, ce sont les mêmes instruments, juste les termes ne sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes danses.
C'est les mêmes rythmiques.
C'est les mêmes rythmiques. Okay. Donc, justement, voilà, c'est la rythmique, je m'étais un peu renseignée pour ne pas dire des bêtises, mais donc, du coup, c'est une rythmique sur 4-4 et 6-8.
Ok, je pense que je vois le truc très.
C'est très saccadé.
Très saccadé. Ouais,
c'est très saccadé, t'as beaucoup de percussions. Et en fait, c'était des musiques. C'est pas forcément, enfin maintenant oui, mais c'était pas forcément des musiques de célébration à la base. C'est des musiques et des danses de guerriers en fait.
Okay.
Donc le reggaeda en particulier, ça se danse avec un fusil et donc en groupe. Donc tu vois, c'est pour vraiment mobiliser les troupes.
Un truc de ralliement en fait.
Un truc de ralliement, de guerriers, de vainqueurs, où tu vas frapper avec tes pieds ou avec le fusil la terre. Donc tu vois, ça a un attachement aussi à la terre. Et ensuite, on a commencé à jouer ces musiques là. Pour les mariages, etc., etc. Mais d'un côté, t'as le reggaeda, donc qui est une musique de guerrier, donc alaoui, qui est une musique de guerrier aussi, et t'as les izran, dans le Rif, où là, c'est vraiment des musiques, des chants de célébration, avec des questions-réponses, donc tu vois, ces trucs de « on chante et on se répond », c'est très, très africain, et très arabe.
Ça, j'adore. Aussi.
Pour le coup, les izran, c'est très poétique.
D'accord.
Reggaeda, il y a très peu de paroles. En plus, les peu de fois où il y a des paroles, en fait, c'est pour donner le rythme et c'est pour donner quel pas tu vas faire, tu vois. Donc, comme ça, tu vas taper 5 fois ton pied par terre, tu vois. Et c'est souvent des hommes, en fait, qui dirigent le reggaeda. Mais izran, soit c'est des chants de femmes, soit c'est des chants de femmes qui vont répondre à des hommes et les hommes, ils répondent aux femmes, etc., etc.
Donc, c'est un peu plus mixte,
C'est un peu plus mixte, voire uniquement féminin. Donc il y a Fatiha El Rosema, qui est du coup, elle, une chanteuse vraiment du Rif, vraiment de chez nous. Et pour le coup, c'est Taziri, avec laquelle je travaille, qui est la DJ que je manage, qui m'a fait aussi découvrir Fatiha El Rosema. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus poétique, c'est des chants d'amour, avec une femme qui va dire un truc, tu vois, des belles paroles poétiques d'amour, un homme qui va lui répondre, etc., etc.
Ramen, soda.
vient d'écouter Fatiha Al-Hosseima, qui est une figure de ce que j'ai compris, féminine importante dans la musique rifaine, donc notamment dans la musique amazigh. Est-ce que, toujours dans la lignée en fait, des genres du reggaeda et du isren, tu aurais d'autres artistes un peu iconiques, on va dire?
Le souci du reggaeda, en vrai, c'est que c'est un... Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une musique qui se chante. Mm-hmm. En fait, c'est une musique qui se danse. D'accord. Beaucoup. T'as tendance aussi à voir d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Et t'as pas de figure de chanteur ou de chanteuse, okay, de reggaeda. Comme je te disais tout à l'heure aussi, dans le reggaeda, y a pas beaucoup de lyrics. Et quand il y a des lyrics, c'est des hommes, malheureusement.
D'accord. Mais donc c'est plutôt des orchestres, en fait?
C'est des orchestres. C'est des orchestres. Et donc justement, t'as des instruments qui sont très, très, très particuliers, très précis. Donc t'as beaucoup de percussions, t'as du bendir, de la gasba. Mmh. Qui se retrouve aussi en Algérie, et t'as le zamar. Zamar, en fait, c'est une sorte de clarinette.
D'accord.
Qui se divise ensuite en deux cornes, et chaque corne a 6 trous, donc en tout t'as 12 trous dans cet instrument avant.
Je vois pas du tout à quoi ça ressemble.
Et donc c'est vraiment, tu vois, une longue... Tu souffles comme dans une clarinette, et après t'as deux cornes, je sais pas de quel animal c'est, mais t'as deux cornes, et donc du coup c'est un bruit très... c'est un son très particulier. Mais ce qui fait que c'est des sonorités, pour le coup, qui me touchent beaucoup, qui me parlent beaucoup, et pour le coup que j'écoute vraiment au quotidien et qui ont influencé mes goûts, en fait, en matière de musique. On en parlait tout à l'heure, le depke, tu vois, c'est au niveau des rythmiques, des percussions, c'est quelque chose de très saccadé.
Ouais. Très entraînant.
Très entraînant, c'est des ambiances qui sont très, presque guerrières, en fait.
Ouais.
Fact, je soupçonne mon goût à un moment donné pour la drill, parce que ça se rapprochait au reggaeda et au depke, dans la rythmique.
Ah bah attends, c'est hilarant.
Et je trouve dans la drill qu'il y a ce côté guerrier-là, tu vois. Et pour moi, la drill, ça ressemble au reggaeda.
Et même la danse de la drill, typiquement.
C'est ça. Ma mère, elle m'envoyait des danseurs, des mecs qui dansaient de la drill. Elle me dit, regarde, ils dansent reggaeda. Je dis, mais non, maman, ils dansent de la drill. Et c'est vrai que ça ressemble.
Mais en vrai, il y a un rapport quand même, moi, je trouve important avec... là, on s'éloigne un peu du sujet, donc ça va être une parenthèse brève. Mais le rap et les sonorités, justement, dont on parle, je trouve qu'il y a souvent des influences, et le fait que en France, du moins, l'immigration maghrébine, amazigh, arabe, etc., soit très présente dans le rap, c'est pas anodin non plus, quoi.
Bah justement, j'avais écrit un article sur l'influence du raï dans le rap, français.
Ok.
Et notamment sur le pourtour marseillais. Quand tu vois la présence, là, on n'est pas forcément sur des sonorités reggaeda, mais l'influence du raï, que ce soit dans le vocodeur, l'autotune, etc., ou même dans certains samples, en fait. T'as beaucoup d'artistes R&B / rap / hip-hop à distinguer, parce qu'ici on ne dit pas culture urbaine. on ne peut pas l'amalgame. Y a des samples, en fait, de tout ça.
Ça, j'ai vu avec... c'était un épisode de... Je crois qu'il y en a plusieurs. De Vintage Arab. Et c'était justement sur les samples de la musique, entre guillemets, arabe, repris dans le rap. Et il y avait notamment beaucoup de Fayrouz.
Ouais.
Et en fait, moi, ça m'avait étonnée parce que c'était des morceaux que j'écoutais. Et Fayrouz, c'est une des artistes que j'écoute vraiment le plus. C'est une artiste auquel j'ai une attache vraiment immense. Pour le coup, moi, toute la génération dont on parle régulièrement dans cette émission assez, on va dire, classique, Om Kalsoum, Fayrouz, Ward, etc., c'est vraiment des artistes que j'aime énormément. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant, le lien entre...
De fou. J'ai l'impression qu'il y a un revival, il y a un revival de tout ça, en fait, des considérations de notre génération,
totalement,
de ces chanteuses et de ces chanteurs-là. Quand je vois du Fayrouz ou même du Warda, qui sont des trends TikTok, ou du Cheb Hasni aussi, qui sont des trends TikTok.
On en a parlé dans le dernier épisode, justement, parce qu'il y a une vraie, en fait, influence des réseaux sociaux et des communautés, en fait, qu'on crée sur les réseaux sociaux, sur justement comment on va reparler de certaines artistes dont on ne parle pas dans certains pays ou qui ont été oubliés, comme par exemple Cheikh Harimiti. Parce que moi, quand je pense à l'autotune, par exemple, dans le raï, je pense à elle. Je pense pas que ce soit la seule figure, évidemment, mais y a vraiment des sons où l'autotune est très, très marquée. Mais du coup, oui, quand t'as l'autotune vraiment dans le raï, et comment ça revient beaucoup avec des artistes contemporains, donc de nos jours, on a aussi, toujours dans la lignée du reggaeda dont tu parlais, le morceau que tu proposes, Sheba Wafa, Regeda.
قولوا لامي انتي واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا عقدنا لو زوج اللي راني نبغيها قولوا لامي انتي واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا عقدنا لو زوج اللي راني نبغيها انا كل البنات قولوا لامي انت واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا عقدنا لو زوج اللي راني نبغيها قولوا لامي انت واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا عقدنا لو زوج اللي راني نبغيها قولوا لامي انت واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا بغات هنا وزوج اللي راني نبغيها قولوا لامي انت واش من حلمها اللي راني فيها يا ما ولا بغات هنا وزوج اللي راني نبغيها
الله حمودة
On vient d'écouter Reggaeda de Sheba Wafa et donc on a joué ce morceau en lien avec la question de l'autotune dans les musiques contemporaines qu'on écoute du moins en France et donc intrinsèquement en fait la question de la transmission culturelle que ce soit dans les diasporas en tant qu'enfant d'immigrés vraiment dans tous ces mouvements là on va dire culturels et je pense que ça peut être sur le plan personnel et artistique il y a vraiment je considère une place importante qui doit être accordée justement aux musiques de nos pays d'origine et après ça peut se faire de sous plein de formes différentes. Est-ce que pour toi, il y a un moyen, en fait, un peu de... Que ce soit autant dans ton vécu ou ce que tu vois chez les autres, un moyen de un peu se reconnecter, justement
Alors, pour ma part, déjà, c'était par les célébrations. Donc, les mariages en particulier. Donc, quand j'étais petite, dans ma vie, j'ai fait que des mariages marocains. Tu t'endors à 4h du matin sur la banquette. C'est pas du tout un cliché, c'est vrai.
Je sais.
Et donc du coup, je pense que ça permet d'avoir une sorte de... C'est un souvenir concret qui inscrit des sonorités dans un contexte précis, tu vois.
Ouais, et un contexte de joie.
De joie, okay. C'est ça. Après, c'est pas quelque chose que j'avais forcément conscientisé.
Ouais.
Je l'ai conscientisé là, en fait, je pense, pour l'émission.
Mais parce que c'est très inconscient, c'est logique. En fait, tout ça. Mais c'est ça, c'est des choses qui nous semblent évidentes. Et c'est après, en grandissant, en lisant des articles, des bouquins, etc., qu'on se rend compte que...
Bah, c'est là,
en fait. Ouais, c'est ça. Et ça a une signification. C'est jamais anodin, en fait. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence sur ce point-là.
C'est ça. Et ça fait que, du coup, j'ai commencé à se conscientiser le rapport à la musique. Et du coup, j'ai commencé à travailler aussi dans la question des diasporas maghrébines en France et de la musique. Parce que dans le cadre de mes études, donc j'ai fini maintenant, donc j'ai fait des études de recherche en histoire de l'art. Et j'étais spécialisée dans l'art des diasporas maghrébines en France. Et j'ai travaillé notamment sur une œuvre d'un plasticien franco-algérien qui s'appelle Kader Atia. Et donc du coup, qui a photographié des femmes trans algériennes qui ont immigré dans le nord de Paris pendant la décennie noire.
C'est hyper intéressant ce lien intersectionnel.
C'était le sujet de mon mémoire, l'intersectionnalité.
Ok.
Enfin, à l'intersection des identités de classe, de genre et de race dans la piste d'atterrissage. Donc, c'est le titre de l'œuvre de Kader Atia. Et en gros, c'est une série de photographies, tu vois, de diapositives qu'il projetait. Et en fait, t'avais une playlist. Et donc, dedans, il y avait Cheb Hasni, notamment. Okay. Et en fait, à ce moment-là où donc, je redécouvrais des sons... beaucoup de sons algériens et beaucoup de sons raï que Kader Atia avait intégré du coup dans la piste d'atterrissage, dans le dispositif artistique de la piste d'atterrissage. Ma mère, elle m'avait envoyé une vidéo en noir et blanc qui date de 71, d'un mariage à Taourirt. Donc ma grand-mère, elle est Taourirt dans le Rif. Et en fait, donc c'est un mariage et elle m'explique que ma grand-mère est probablement parmi ces femmes-là. Et donc dans cette période-là, en fait, où j'étais en train d'élaborer ma recherche autour de la piste d'atterrissage, donc tu vois ça, c'est des sujets un peu lourds, tu vois, ces femmes-là qui ont fui l'Algérie pendant la décennie noire. Et ma mère est tombée enceinte de moi. La guerre en Algérie était encore... là, tu vois. La guerre civile, c'était encore très d'actualité. Donc ça l'a traumatisée, elle m'en a beaucoup parlé, etc. Le fait, tu vois, d'écouter régulièrement des sons de Cheb Hasni, dans ma recherche, j'écoutais, je lisais plein d'auteurs algériens. Et dans la foulée, en fait, elle m'envoie cette vidéo-là. Et en fait, tu vois, c'est un bloubi-boulga, en fait, de tout plein de références qui te frappent d'un coup et qui m'ont bouleversée. Ça m'a bouleversée. Elle m'a envoyé cette vidéo-là, donc c'est des femmes qui chantent, qui dansent, etc. Et ça m'a fait pleurer. Et donc du coup, de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais ça. Pourquoi, en fait, j'étais frappée par une sorte de mélancolie, de nostalgie, en écoutant du Cheb Hasni alors que je ne comprenais pas les lyrics. Pourquoi ça m'a fait pleurer de voir, en fait, des chants et des danses de femmes à un mariage dans le Rif dans les années 70. Et de là, en fait, j'ai commencé à gamberger, en fait, sur mon rapport à la musique et sur à quel point... Je suis pas quelqu'un qui écoute fondamentalement beaucoup de musique. J'ai fait de l'histoire de l'art, mon truc, c'est les arts visuels. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien d'être un peu plus transdisciplinaire, que c'était beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Et que souvent, les images, quand elles étaient appuyées par de la musique, elles étaient beaucoup plus éloquentes et beaucoup plus bouleversantes. Et la musique, quand tu l'écoutais, en fait, elle te rappelle... Elle te renvoyait à des images, elle te provoquait des images. Et donc, du coup, j'ai commencé, tu vois, à réfléchir un peu à pourquoi la musique, pourquoi le raï en particulier. Mais après, c'est aussi le raï s'autoproclame aussi, très nostalgique, parce que c'est un genre musical qui est celui du traumatisme et du déracinement et de la nostalgie.
Mais tout ça, c'est un lien, en fait.
C'est un lien
le traumatisme, le déracinement et ensuite comment ça va venir nous affecter, nous.
C'est ça. Donc, en fait, il y a une théorie donc, qui est étudiée par les scientifiques, qui reste à être confirmée quand même, mais qui s'appelle l'épigénétique, mm-hmm. et donc qui explique,
ah oui, je vois, ouais.
qui explique qu'en fait, on serait marqué dans notre ADN des traumatismes, et notamment des traumatismes coloniaux ou des traumatismes du déracinement. Mm-hmm. En l'occurrence, ma mère, elle est née au Maroc. J'ai été témoin de la tristesse du déracinement ouais. de ma mère. Je t'aime moi non plus entre elle et son pays. Je retournerai plus jamais là-bas, ou je veux être enterrée là-bas, mm-hmm. ou je remettrai plus jamais les pieds là-bas. je vais y retourner. Ou tu vois, enfin. C'est très paradoxal et très complexe. Mmh. Et ce qui fait qu'en fait, tout ça, et la musique en particulier, j'ai l'impression qu'elle réveille en fait, ce traumatisme qui est beaucoup refoulé. Mmh. La musique, elle rend concret, en fait, ce traumatisme-là. Et donc, du coup, je me demande si c'est pas pour ça que le Raï en particulier, ou d'autres chanteuses comme Fairouz, parce que Fairouz, elle me provoque cette chose-là, tu vois.
Ouais. Parce que c'est pareil, Fairouz, c'est une femme qui a des textes très, très poétiques, qui a une façon de chanter et vraiment une voix, en fait, porteuse de mélancolie et de nostalgie. C'est hyper frappant quand on l'écoute, et même quand on regarde des prestations en live d'elle. Mmh. Elle a vraiment des expressions faciales et un regard où je sais pas pourquoi, par rapport à sa vie, tu vois, il y a vraiment... tu vois la tristesse dans son regard, vraiment. Et donc oui, je pense que ça nourrit le truc où nous-mêmes, on est nostalgique. Et puisqu'on écoute des artistes qui sont... qui ressentent ces mêmes émotions-là, c'est assez logique que ça nous affecte d'autant plus, tu vois. Mais moi, j'avais lu pas mal de trucs quant à l'aspect génétique du traumatisme, mais notamment chez les populations afro-américaines. Mm-hmm. Parce que déjà, c'est beaucoup plus étudié, cherché, présent dans le cadre universitaire comme étude. Et il y avait totalement, en fait, cette dimension-là qui était développée du lien entre un traumatisme, donc par exemple l'esclavage, et la musique qui va en être produite par la suite, ou même pendant. Et ensuite, comment cette musique qui a été produite pendant, elle va être réutilisée, donc notamment par des samples, ce qu'on disait tout à l'heure, des siècles après, en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très cyclique, en fait.
De fou, mais après, toute proportion gardée, parce que c'est pas les mêmes traumatismes, évidemment. Enfin, en tout cas, pour mon éducation musicale, faute de références trouvables sur le territoire français, et en l'occurrence hors capitale, parce que moi, je suis pas née à Paris, j'ai pas grandi à Paris, trouver des CD de musique traditionnelle ou juste d'actualité, d'artistes contemporains marocains ou algériens, pour ma mère, ça devait être très compliqué. Donc on écoutait, elle mettait du Idir, du Natacha Atlas, du Alabina, du Shrari Metti, mais sinon, d'artistes contemporains originaire du Maroc, il y en avait très peu. On écoutait à la limite Swan Massi, mais Swan Massi, il me semble qu'elle est des diasporas. Mais on en écoutait très peu. Et c'est vrai qu'elle écoutait aussi beaucoup de blues et de soul. Et tu vois, il y a ce truc-là de tristesse, en fait.
Oui.
De tristesse et de traumatisme. Et donc, du coup, je me demande si, parce qu'il y a, en vrai, de vrai, il n'y a aucune raison que Fairouz me touche, étant donné que je ne comprends pas les paroles, tu vois, et que ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel moi j'ai grandi. Ma mère, elle n'écoutait pas Fairouz. Mes grands-parents écoutaient Fairouz. Donc, tu vois, ça a sauté une génération.
Mm-hmm.
Donc, je me dis, ce n'est pas possible, parce que ça a dû toucher mes grands-parents, ça a dû vraiment littéralement marquer mon ADN que Fairouz racontait la tristesse, racontait le déracinement, racontait la nostalgie, la mélancolie de son pays, d'un amour perdu, d'un territoire perdu, d'une terre qui lui manque.
Oui, par rapport à ce qu'elle a chanté sur Jérusalem.
Exactement.
Ouais.
Et voilà, je peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait l'ADN est littéralement, concrètement marqué par ça, en fait.
Ouais. Je pense qu'en tous les cas, si on le ressent, tu vois, je pense pas qu'il y ait une réponse universelle ce questionnement.
C'est
et
sûr.
Je pense que c'est toi en tant qu'individu, dans tous les
c'est
cas,
ça.
Tu sens ce lien vraiment puissant.
Et c'est ça. Et en fait, dans un second temps, si scientifiquement, génétiquement, c'est peut-être pas vrai, comme il y a cette démarche-là de réinvestissement de son identité, de verbaliser en fait certains traumatismes, de verbaliser des choses qui ont été silenciées en fait par nos parents ou nos grands-parents, il y a cette volonté, tu vois, de savoir, de ressentir inconditionnellement. Et donc, du coup, on embrasse pleinement, et on est pleinement bouleversé, et tu vois, on discute de ce bouleversement, et on verbalise, on ouvre la parole, en fait, sur ça. Donc, indépendamment, justement, du côté, littéralement génétique, il y a par cette volonté d'investissement, ça nous biaise en fait dans notre goût.
Okay.
Je pense que j'aime inconditionnellement Reggaeda, alors que j'écoute vraiment hein, des fois des sons beaucoup trop forts, d'une ouais. qualité qui parfois n'est pas incroyable, juste parce que probablement en fait je veux aimer.
Ouais.
Je veux aimer parce que c'est ça qui me rattache à mon pays d'origine.
Ok, oui, donc c'est lié en fait au sentiment de rattachement.
Ouais, c'est ça, d'envie, ça oriente ton goût en fait. Ouais. Ça se trouve, en vrai de vrai, s'il n'y avait pas cet enjeu, j'aimerais pas ou j'y accorderais aucun intérêt.
Okay.
Mais comme j'ai cette volonté inconditionnelle d'aimer mon pays d'origine,
ouais.
de m'y rattacher, de trouver un lien d'une quelconque manière, et ben j'aime inconditionnellement le Reggaeda.
Ok. Non, je vois en quoi ça rentre en jeu, en fait. Mais je trouve ça hyper intéressant. Mais quant à ce que tu dis par rapport au fait que bah, les CD, etc., c'est difficile d'être trouvé en France. Moi, j'ai une anecdote assez drôle par rapport à ça. C'est est-ce que tu vois la radio Radio Orient ils avaient une émission, je crois, c'est Ezer Telcha, quelque chose comme ça, et qui, tous les jours, c'est encore une radio qui existe, mais moi, pour le coup, c'est la radio principale avec laquelle j'ai grandi, parce que c'est la radio qui diffusait, en fait, bah, des morceaux de... Je vais pas dire Moyen-Orient, je refuse. De tous les pays maghrébins et arabes, on va dire. Et je racontais à ma mère, donc ma mère qui est entièrement égyptienne, un peu le sujet de cet épisode-là, parce qu'elle est très curieuse, évidemment, par rapport à ce que je fais ici, on va dire. Et je lui parle de Hajj al-Hamdawi, dont on a un peu discuté ensemble. Et je lui dis que bah, je suis en train de découvrir cette femme, donc, qui est une chanteuse d'origine marocaine.
Marocaine, ouais.
Ouais, c'est ça, qui est d'origine marocaine, qui a été vraiment une précurseur du charbi. Et je lui disais que bon, j'étais en train de découvrir cette femme, que j'étais complètement fascinée par elle, par ce qu'elle faisait et tout. Et ma mère me dit, mais tu sais que, enfin, on écoutait ça il y a très longtemps quand on écoutait Radio Orient. Et je lui dis, non, mais c'est pas possible, parce que moi, je me souviens, par exemple, des morceaux de, je sais pas, de Nancy Ragom, de Haifa Wahbi, toutes ces artistes bah, contemporaines qu'on jouait, mais je me souvenais pas forcément... Enfin, c'était pas une figure, du coup, qui m'avait marquée. Et je trouvais ça assez marrant, le fait qu'elle me dise que c'était quelque chose qui était déjà présent, on va dire, dans le fond... Le fond sonore, en fait, de mon environnement, de mon chez-moi, quoi. Mais oui, Hajj al-Hamdawi, je sais pas si toi, c'est une artiste pour laquelle t'as une attache particulière ou...
Pas forcément.
Ok.
Parce que du coup, c'est du Cherbi.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance forcément à écouter du Cherbi, même s'il y a un attachement, comment dire, de classe.
C'est-à-dire ?
Dans le sens où le raï, ça veut dire opinion. Donc tu vois, il y a cette... Et c'est vraiment un genre musical qui vient des classes les plus populaires de la société algérienne. Le Cherbi, ça veut dire ça vient de Cherb, donc le peuple.
Ouais.
Et tu vois, dans cette... pas forcément dans les sonorités, ça me parle pas forcément dans les sonorités, mais dans le symbole de classe, étant donné que je suis rifaine, et que voilà, il y a une réalité encore très contemporaine de classisme envers le rif, il y a... Et ma mère aussi me transmet cet attachement-là aux classes populaires marocaines, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime bien le raï, ou en tout cas qu'on lui accorde un crédit politique.
Ouais.
Revendication. De revendication, en fait. Et c'est de la musique. La musique du peuple, en fait. C'est la musique qui est par le peuple, pour le peuple, qui parle au peuple.
Mm-hmm.
Et qui parle aux classes les plus pauvres.
Il y a un morceau auquel tu penses dans cet esprit de...
Non.
Vraiment de musique, ok.
Voilà. Mais je pense que c'est plus... comment dire, c'est pas... c'est dommage parce que c'est pas... Je le rattache pas forcément à des sonorités, mais c'est juste un crédit symbolique que j'accorde, en fait,
d'accord,
à ces genres musicaux-là. Et qui font que... Bah, d'une certaine manière, le Cherbi, je n'écoute pas du Cherbi, j'ai pas grandi avec du Cherbi, mais je peux, dans une certaine mesure, me sentir concernée dans mon attachement de classe rifaine.
D'accord.
Par, effectivement, un genre musical qui est celui du peuple, en fait.
Mais je trouve ça intéressant, le truc un peu de revendication, du ralliement. Moi, je trouve que c'est un truc que Cheikh Harimiti, encore une fois, elle incarne, elle incarne très très bien. Est-ce qu'on jouerait pas un morceau d'elle maintenant ?
أصوانات خدمكم الشيخ الريميتي القديمة الحقانية غيرهم الشعراء بديك الرجلة وقصاص بيا الشيخ محمد النمس الشيخ البكاي الشيخ محمد العكرمي أبر الزغراتي أختنا بنت وهران من البرحة خلوهم لا يبغوا يفهموا طيني واحد فيهم والقاري يديه خليهم لا يبغوا يغيروا خلوهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يصحروا يا دني 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 خلوهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يفوتوا خليهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يفهموا خلوهم لا يبغوا يغيروا يقبوا المري وما يبغي حد خليهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يفهموا خليهم لا يبغوا يهضروا خلوهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يغيروا داني 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 دايني داني 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 دايني خليهم لا يبغوا يقولوا وخلوهم لا يبغوا يموتوا حبيبي مولفني بهضرة شابة خليهم لا يبغوا يموتوا خلوهم لا يبغوا يغيروا خلوهم لا يبغوا يموتوا
Vous avez écouté Rasoul Allah de Cheikh Harimiti, donc une artiste dont on a pas mal parlé, une pionnière du raï. Et on en parlait notamment dans le cadre en fait de que le raï, c'est une musique qui porte une revendication, où il y a un esprit vraiment de ralliement. Et aussi en lien en fait avec le rapport personnel que nous, en fait, on construit à ces artistes et spécifiquement en fait à ces sonorités-là. Donc l'idée du traumatisme inscrit dans l'ADN dont on a parlé et comment en fait les traumatismes sont transmis de génération en génération. Je pense que c'est hyper intéressant comment ça va venir agir différemment dans nos rapports à l'art et à quel point, en fait, nos rapports à l'art sont totalement subjectifs et, oui, très, très intimes et personnels. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que toi, spécifiquement dans cet esprit-là, en fait, d'enfant de la diaspora, de personnes métissées, etc., comment est-ce que tu vis ton rapport à la musique ?
Alors, l'art... Et donc, en partie, la musique, c'est ce qui m'a permis, en fait, de légitimer mon D'accord. sentiment d'appartenance. Dans le sens où, en tant que franco-marocaine, donc j'ai été élevée par ma mère qui est marocaine, je savais que ma mère était marocaine, mais moi, je savais pas que je l'étais aussi. J'avais pas compris. En fait, je me suis rendu compte que j'étais racisée très tard. Je devais avoir 23 ans. J'en ai 26 maintenant.
C'est vrai ? Ouais. Mais pendant ton enfance, est-ce que... Notamment, si, parce que si c'est pas toi qui le réalise...
C'est le monde extérieur qui te...
C'est exactement, qui... Alors, te renvoie à ça.
Là, en l'occurrence, quand tu viens d'une famille... Enfin, en tout cas, pour mon expérience, quand tu viens d'une famille... Enfin, que t'es issue d'un couple mixte, c'est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que le racisme, je l'ai connu du côté de ma famille, blanche.
D'accord.
Pas de la société, littéralement. Ma mère en avait été victime, mais pas moi. Il y avait une... J'altérisais ma mère, en fait.
D'accord.
Quand on me disait « mais t'es de quelle origine ?», je disais « ma mère est d'origine marocaine ». Mais je m'intégrais pas dans le truc. Donc du coup, ça fait que pour moi, c'était très anecdotique, en fait, les paroles que j'avais pu entendre ou les comportements que j'avais pu voir du côté de ma famille paternelle. Et c'est en fait, bizarrement ou pas, c'est quand je suis arrivée à Paris, donc à l'âge de 18 ans, pour faire mes études, où on a commencé à me renvoyer à une racialisation.
Okay.
En fait, ça arrivait plus ou moins au lycée, parce que du coup, j'étais dans des milieux un peu plus bourgeois qu'au collège, où pour le coup, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, dans une petite ville dans les Bouches-du-Rhône. Pour le coup, on vous distingue pas. En plus, quand t'es ado, tu sais, au collège, je sais pas, enfin, on voyait pas trop qui était quoi, tu vois. T'avais des Espagnols, t'avais des Gitans, t'avais des Algériens, t'avais des Marocains, t'avais des Italiens, donc tu savais pas trop qui était quoi, et la question, elle se posait pas forcément, tu vois.
Bah, c'est très propre à là où tu grandis. C'est vraiment très propre à ça, parce que je sais que moi, j'ai passé toute ma vie à Paris, j'ai grandi à Paris, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup dans le précédent épisode. Et moi, j'ai grandi, tu vois, dans des lieux prédominant blancs, tu vois, j'ai grandi vraiment dans le centre de Paris. J'ai fait toute ma scolarité dans le centre de Paris jusqu'à l'université. Donc, c'est là depuis 2 ans que je sors de ce milieu-là. Mais pour le coup, moi, la différence, je l'ai ressentie vraiment
très jeune.
Dès la primaire, dès ma rentrée en primaire. Et ce que je comprenais pas. La subtilité, c'est que je comprenais pas c'était quoi cette différence. Qu'est-ce qui me rendait différente? Et évidemment, il y a la classe sociale qui joue, parce que du coup, centre de Paris, c'est très bourgeois, c'est très bobo et tout. Mais il y avait aussi la question des origines, tu vois. Mais c'était sans savoir que c'était à ça qu'on renvoyait. Mais je trouve ça important, en fait, l'impact de notre environnement sur la façon dont nous, on va concevoir nos identités.
Bah, je pense que c'est arrivé, notamment au lycée, mais c'était, comment dire, beaucoup plus insidieux, en mode « mais t'es de quelle origine ?» Et les gens, tu sais, ils jouent aux devinettes.
« Tu viens d'où ?»
Ouais, c'est ça.
On la connaît, la question.
Donc, du coup, on me disait « t'es libanais, enfin, t'es corse », on m'a tout fait.
Ouais.
Tout fait, et c'était jamais la bonne réponse. Mais je le voyais à l'époque, je le voyais pas comme quelque chose de mal.
Ouais. Parce que
jusqu'à il y a très peu de temps, ma mère était très. Comment dire? C'était son mode de résilience, mais était très désintéressée. Comment dire? Elle accordait pas un crédit traumatique aux remarques qu'elle avait subies depuis tout ce temps.
Mais parce que
c'est un mode de survie,
c'est
en fait.
Ça,
tout
totalement.
Pour elle, voilà, le prenait à la rigolade au mieux, tu vois. Et c'est quand je suis arrivée à Paris, où là, c'était beaucoup plus frontal.
Okay.
Beaucoup plus frontal. J'ai côtoyé des milieux étudiants et militants.
Ouais.
De gauche, d'extrême gauche, de gauche radicale. Et c'est pas trop ça.
Non, mais un jour on parlera de ça au sein des.
C'était très particulier. Voilà, en plus, c'était à une époque où en France, en plus, dans les milieux universitaires, on commençait à réceptionner aussi les théories décoloniales. Donc, t'as beaucoup d'étudiants, en fait, qui sont sentis concernés, sans forcément l'être, dans ces considérations-là décoloniales. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une sorte de liberté à parler de mes origines.
D'accord.
Et à les utiliser comme token ou comme outil de légitimation politique. Et donc là, ça m'a traumatisée, par contre.
D'accord.
Je pense que j'ai des traumatismes anciens de ma famille parce qu'il y a eu des propos de mon propre père qui ont fait que ça reste ancré, en vrai, quand t'es un enfant de 6-7 ans, tu vois. Mais je l'avais pas conscientisé à l'époque, alors que là, je l'ai conscientisé immédiatement.
Mm-hmm.
Tu vois. Ça m'a vraiment frappée. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui a participé à ma légitimation identitaire, parce qu'en fait, je me rendais compte que, et surtout en grandissant, mon physique a changé. Je pense qu'aussi, dans un milieu qui était beaucoup plus blanc, je détonnais un petit peu plus. Parce qu'en vrai, quand tu vis dans le sud, c'est un peu compliqué de savoir qui est quoi. Puis je pense que quand t'es enfant et à cette époque-là, peut-être qu'on y accordait peut-être moins de crédit, je sais pas. Et oui, effectivement, entre 2014 jusqu'à... Parce que je suis arrivée en 2014 à Paris, jusqu'à maintenant, c'est au mieux, c'est anecdotique et les gens, ils te posent des questions. Ou au pire, c'est des remarques hyper désobligeantes et rabaissantes, tu vois. Ou des situations qui minimisent de fou ton ressenti. Puis, voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis arrivée à Paris, donc j'ai fait des études. Et en fait, c'est grâce à mes études et à l'art que, du coup, j'ai pu me sentir concernée. Et en fait, c'est des événements qui sont arrivés en parallèle. C'est que moi, j'avais un investissement culturel et historique africains, nord-africains, arabes et diasporiques. Et à côté de ça, bah, en fait, je me rendais compte qu'on m'altérisait de plus en plus.
D'accord.
J'avais l'impression que mon physique se racialisait, mm-hmm. que du coup, ça devenait un sujet.
D'accord.
Et dans la foulée, en même temps, tu vois, j'avais cet investissement-là culturel pour mes études. Mm-hmm. Tu vois. J'ai une très mauvaise expérience à la fac.
Ouais.
Où en L3, je suivais un cours d'histoire de mondialisation et le titre était Histoire de l'art de l'Afrique. Et donc c'était une prof qui était ma prof de CM et ma prof de TD, qui était blanche. Et donc en TD, on devait faire un exposé sur un artiste algérien, donc Abdel mm-hmm. Abenater. Et donc du coup, j'avais voulu parler des cultures amazighes parce que c'est un artiste algérien qui, tu vois, s'inspire de la langue et de l'écriture amazigh.
D'accord.
Et du soufisme parce qu'il se rattache mm-hmm. beaucoup à la pensée soufie. Et je me suis pris une bâche. En fait, okay. Je me suis pris un refus
ouais.
net de ces particularismes-là de la culture algérienne, donc le soufisme,
mm-hmm.
globalement l'islam, et les amazirs, les cultures amazirs. Et donc elle m'a repris en disant non, mais ce qui est intéressant, c'était d'analyser ce tableau-là, Hommage à Monet. Et donc en fait, ça a été, je pense, le dernier traumatisme
mm-hmm.
Que j'ai vécu. Je l'ai réceptionné comme du racisme.
Ok. Mais fait, ça, c'est quand t'as à ton identité en tant ouais. qu'amazigh.
Je me suis sentie atteinte.
D'accord.
Je me suis sentie atteinte et c'est la dernière fois, je pense, où je me suis sentie atteinte et ça m'a bouleversée. Enfin, mm-hmm. J'ai eu du mal à être résiliente sur cet événement-là, en fait.
Ouais.
Après, quand... C'est ça qui a impulsé ensuite ma recherche, qui D'accord. a fait que je me suis spécialisée dans l'art des diasporas maghrébines. Mais c'était le dernier coup bas que j'ai reçu. Et en plus, là, c'était, tu vois, à Paris, dans mm-hmm. un milieu blanc, dans ma fac,
ouais.
Dans un cours où, en fait, je me sentais concernée. Et je me suis dit, en plus, c'est l'occasion,
bah oui,
en fait, de réinvestir mon identité, de réinvestir mon identité africaine
ouais.
Et mon identité nord-africaine grâce à un artiste algérien.
Mm-hmm.
Et je me suis pris un refus net, en fait, et je me suis rendue... Enfin, elle m'a clairement dit qu'en fait, ce qui était intéressant quand on étudiait un artiste mm-hmm. africain, bah, c'était à la lumière des Blancs, en fait. Et mm-hmm. à la lumière de l'Occident et à la lumière, en l'occurrence, de la France et des artistes français.
Mais c'est aussi lié, en fait, aux études orientalistes, en fait.
C'est la continuité ouais. de l'orientalisme.
Ouais.
Et je l'ai vécu comme un coup bas, mais ça m'a bouleversée. C'est pour ça qu'ensuite, l'année d'après,
ouais.
J'ai fait ma recherche sur Kader Attia et sur l'intersectionnalité ouais. Classe, genre race, dans la piste
D'accord.
d'atterrissage. Mais tu vois, c'est justement ça, l'art comme outil de oui. légitimation de mon identité, en fait. Et aussi comme outil de résilience,
mm-hmm.
qui fait que c'était quelque chose de concret, qui me rattachait à mon identité concrète
mm-hmm.
et pas juste des ressentis suite à des traumatisme.
Parce oui, il y a quelque chose de presque matériel, en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. En fait, j'étais bouleversée parce que j'écoutais des sons dont je ne comprenais pas les paroles, mais je ne savais pas pourquoi. Mm-hmm. J'étais bouleversée parce que je me prenais des remarques, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et heureusement, en fait, que j'avais l'art, et notamment la musique ouais. ou les arts visuels, comme outil concret et qui me permettait, en fait, de rebondir, de produire des outils de pensée, de produire ensuite des mécanismes de résilience. C'est en produisant ouais. des outils de pensée en histoire de l'art que, donc, du coup, j'ai produit des mécanismes de protection et de résilience qui font qu'aujourd'hui, enfin,
mm-hmm.
Alors que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai fini les études, je me sens enfin légitime dans mon identité africaine, méditerranéenne, parce que j'ai grandi aussi dans le sud de la France, donc c'est ce qui me concerne aussi, ouais. l'attachement à la mer, tu vois. Amazigh, nord-africaine, maghrébine, arabo-amazigh, etc., etc.
Ouais, donc une identité qui est plurielle, c'est qui ça. Est complexe et qu'on
Exactement.
Peut pas réduire, en fait,
à
un terme unique. Ouais, totalement. Mais je trouve ça vraiment dingue, en fait. Tout le travail qu'il y a eu derrière pour pouvoir se sentir légitime. Moi, c'était instinctif.
Mm-hmm.
En fait, là où c'est vraiment... Je trouve ça passionnant à quel point nos vécus, mm-hmm. malgré ce que certains voudraient dire, sont tous radicalement différents.
Oui, complètement.
Parce que moi, du coup, comme je te disais, j'ai ressenti une différence dès mon enfance sans savoir pour autant
mm-hmm.
ce qu'elle était. C'est plus tard, clairement, que j'ai compris, je pense au collège, à la fin du collège,
mm-hmm.
que j'ai compris que c'était par rapport à mes origines, en fait, et qu'il y avait un réel enjeu dans ça. Mais moi, en fait, j'ai très peu été introduite à ce qu'on considère comme étant la culture française sur le mm-hmm. plan artistique, tu vois. Autant sur le plan de la musique que le cinéma, le théâtre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai grandi avec de la musique arabe, entre guillemets, avec que ce soit masculin, féminin, là, tous artistes confondus. J'ai grandi avec le cinéma égyptien, avec les pièces de théâtre égyptiennes, les pièces de comédie, enfin de théâtre et tout égyptienne. Je me suis jamais posé la question, en fait, de est-ce que je suis légitime ou pas. Tu vois, pour moi, c'était ça va de soi, en fait.
Ouais, ça va de soi.
Alors qu'en fait, je me rends compte, là, en discutant avec toi, que non, ça va pas forcément de soi. Il peut y avoir une construction vraiment importante derrière ça, quoi.
Bah, je pense que c'est la particularité d'un territoire, donc celui des Bouches-du-Rhône, qui a une histoire de cette diaspora, et notamment de cette diaspora algérienne, qui est très compliquée.
Ouais.
Mais qui fait que, tu vois, c'est un petit peu diffus.
Oui, je vois.
Tu vois. Surtout que moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Martigues, qui était une des rares villes communistes de la région, où vraiment, la question, elle se posait pas du tout. Et après, il y a la question du métissage et du fait que j'ai un état civil français et que vraisemblablement, ma gueule n'a pas l'air de correspondre à mon nom. Donc du coup, j'avais toujours des airs circonspects comme si en fait, j'étais l'incarnation même d'un paradoxe.
Je vois.
Donc c'est ça le souci, au-delà de la question du métissage, mais quand t'es issu des diasporas africaines et que tu vis en France, c'est qu'en fait, on te regarde comme si t'étais un paradoxe, comme si tu étais le colon et le colonisé, comme si tu n'avais pas lieu d'être, qu'il fallait que tu choisisses un monde typiquement français. Deux, il faut que tu choisisses. Et donc, quand en plus, t'as un parent qui est français, blanc, et un parent qui est marocain, pas français, et pas blanc, du coup, bah ouais, t'as l'impression de... Tu sais pas trop qui t'es, genre...
Ouais, la question de l'identité, elle devient 10 fois plus...
Où tu te places.
Compliqué, ouais.
Où tu te places. Et donc, du coup, après, c'est grâce aux études, mais aussi le fait d'arriver à Paris. Donc, en vrai, t'as une diversité de personnes beaucoup plus large que quand t'es en région, tu vois.
Ouais, et un accès à l'art qui est totalement différent.
Donc, j'ai pu discuter avec des gens qui me ressemblaient, donc notamment des personnes métisses, pas forcément métisses franco-maghrébines, mais des métisses en règle générale, tu vois. Et qui ont fait que, on a pu discuter ensemble. Et ensuite, des personnes issues des diasporas, et donc je pense encore à Taziri, qui, elle, est née au Maroc, qui a immigré au Maroc, qui est du Rif aussi. Et pareil, en fait, c'est pas forcément parce que t'es pas métisse que t'as pas ces problèmes de légitimité. Ouais. Identité,
bien
parce
sûr.
Que tu parles pas la langue, parce que tu le comprends pas, certaines subtilités de la langue ou de la culture, parce que tu te sens pas chez toi en France, mais tu te sens pas chez toi au Maroc. Enfin bref, c'est plein de considérations qui, au fil des discussions, font que en fait, tu n'es pas seule dans ce que tu ressens, que l'impasse dans laquelle t'es, en fait, elle est largement partagée. En fait, c'est en ouvrant la voie et en discutant et en se rendant compte que déjà, on a des expériences qui sont parfaitement différentes et en même temps que dans une certaine mesure, ça se recoupe un peu, qu'en fait, t'arrives à te sentir à l'aise
mieux,
dans ta communauté, parce qu'on recrée une communauté.
Ouais, je vois. Est-ce que, quant aux artistes qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a une artiste à laquelle tu penses qui, à ton sens, a su le mieux, sur le plan de la musique, exprimer un peu la complexité de l'identité, et notamment de par la culture amazigh ?
Il y a Swad Asla, que j'aime énormément, qui est une grande, grande performeuse live, qui produit beaucoup plus en live que sur les plateformes, qu'on peut souvent trouver sur scène dans tout Paris ou, ou en banlieue parisienne.
C'est quelle génération à peu près elle a commencé à peu près dans les années combien, tu
vois ? Là, les années 2010.
Okay.
Elle a souvent accompagné aussi de chanteuses sahraouis. Et c'est une personne que j'aime énormément et qui représente, je pense, vraiment ce truc de légitimation des diasporas parce que, tu vois, elle revendique beaucoup les cultures amazighes, mais les grands amazighes, donc du Sahara. Tu vois, les amazighes, en vrai, c'est pas juste l'Algérie et le Maroc, ça va jusqu'au Mali, en fait. On a trouvé apparemment des amazighes jusqu'en Syrie. Donc, les amazighes, c'est un grand peuple.
Ouais.
Et c'est des peuples. Et je trouve que Swad Asla, elle représente beaucoup ce truc, en fait, de légitimation et de complexité, en fait, des amazighs. Et elle représente, je trouve, vachement bien les diasporas amazighs en France.
On va écouter tout de suite Salem de Swad Asla.
حلوة حلوة جايين بالوردة الحرة جايين بالشمال قادية جايين بالحنة جايين بالحلوة جايين بالوردة جايين بالشمال قادية وعليكم السلام السلام لجدودنا، ردوا السلام لولادنا، ردوا السلام لحبابنا، ردوا لهم السلام، ردوا السلام، ردوا السلام، ردوا السلام، ردوا لهم السلام. سلام للمظلوم، طالبين سلام للمحروم، طالبين لهم السلام، طالبين سلام، طالبين سلام، وطالبين سلام، وطالبين لكم السلام.
On vient d'écouter Salem de Souhaid Aslok, qui est donc une figure féminine artistique en fait importante selon toi dans la musique amazigh. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à elle ?
Bah comme je disais, c'est une performeuse que j'aime énormément. Enfin, je la définis comme une performeuse en fait,
ouais.
Parce qu'en live, elle est incroyable et souvent elle vient, tu vois, avec des orchestres, etc. Même humainement, c'est quelqu'un qui est très chaleureux. Enfin, voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un collectif qui s'appelle le collectif Kif Kif Bledi,
okay.
Qui est porté et qui a été créé, il me semble, par Raïs Alei, qui est de Oujda, donc de la ville où ma mère est née, et qui donc du coup, donc qui est une femme que j'aime beaucoup, et qui elle aussi, tu vois, elle essaye de, comment dire, de vulgariser et d'aborder en fait les cultures amazighes. Donc elle passe d'abord par la danse, parce qu'à la base c'est un collectif de danseurs et de danseuses. Donc elle initialement elle est danseuse, maintenant elle est aussi conférencière, et tu vois, notamment via des réseaux sociaux ou via des conférences, des podcasts, des événements, etc. Elle démocratise en fait un petit peu les cultures amazighes et les danses amazighes, mais aussi les danses arabes. Donc on peut trouver, ils font des cours.
Ouais.
Récemment, ils ont ouvert un studio dans Paris. Mmh. Tu peux suivre des cours, donc des cours de reggaeda, des cours de debke, cours de shawi, etc. Donc Kif Kif Bledi, c'est un... Tu vois, c'est un collectif vraiment qui participe en fait à préserver, mais aussi à transmettre et parfois à détourner. Un petit peu, tu vois. Donc, par exemple, Raïs Alei, elle va avoir tendance à mélanger le reggaeda, donc de la danse du riff, avec le walking, donc qui est une des danses du voguing.
Mais non.
Si. Okay. Et donc, tu vois, c'est par ces mélanges-là, ces bricolages, en fait, de références culturelles qui sont ceux de notre génération, en fait, ou qui sont ceux aussi de populations ou de communautés qui sont graves mises de côté, en fait. Mm-hmm. Le voguing, c'est une danse queer.
Ouais,
et le walking, c'est une danse queer. Et donc, tu vois, c'est cette possibilité-là, en fait, de mélanger une culture traditionnelle et des nouvelles cultures, des nouvelles références, ben, là, en l'occurrence, queer, qui font que les nôtres, nos frères et sœurs, tu vois, de nos communautés, notamment nos frères et sœurs queer, en l'occurrence, ben, en fait, peuvent être.
Il y a un croisement.
Tout ce qu'ils veulent mm-hmm. et être ce qu'ils sont, en fait. Donc totalement. Être amazigh et être queer mm-hmm. et pouvoir performer et exister dans leur culture, tu vois, sans forcément ouais. être obligé de faire un consensus ou de faire des choix. Donc voilà, Kif Kif Lady, c'est vraiment un collectif que j'apprécie beaucoup aussi pour ça. Et donc du coup, Raïssa Ley mm-hmm. sera intervenante, j'espère, s'il n'y a pas d'imprévu, pour Yenayer, du coup. Donc c'est le nouvel an amazigh qu'on va mm-hmm. fêter début d'année prochaine, donc le 12 janvier à la Flèche d'Or. Et donc du coup, on aura un talk sur qu'est-ce qu'être amazigh en tant que diaspora notamment, tu vois, et quels outils on a et quelles limites aussi on doit, quels outils critiques et les limites on doit s'imposer. Et on aura aussi une projection d'un documentaire, et ensuite évidemment on fera la fête. Mais tu vois, voilà, le Yenayer, c'est ce genre d'événement que tu trouves partout en France, ouais. de plus en plus. On le fait aussi à Toulouse, il me semble, ou à Drancy. Il y a un collectif amazigh à Drancy. Et donc voilà, c'est le nouvel an amazigh calqué sur le calendrier amazigh qui est en 2100, je ne sais plus combien. On va le fêter cette année, donc le 12 janvier 2023 à la Flèche d'Or.
Ok, bah déjà je vous invite tous et toutes à y aller ou à vous intéresser à cet événement. Au-delà de ça, en fait, c'est totalement en lien avec ce qu'on disait, ce que tu disais au tout début de la discussion sur la transmission culturelle par la célébration, en fait.
C'est ça.
C'est l'élément qui semble beaucoup revenir. Vraiment, c'est cette idée de « je vais célébrer ma culture ». Et je vais inviter, en fait, par la célébration, les autres, autant que ce soit des personnes de ta culture ou non, à s'y intéresser, en fait. Et je vais partager ça moi-même. Pour moi, c'est vraiment le jeu, le moi, en fait, qui c'est est ça. Important dans cette question. C'est qu'est-ce que moi, je décide de faire de cet héritage culturel ? Qu'est-ce que moi, je décide de faire de toutes ces questions que je me pose au quotidien, tout ce bouleversement que t'as très bien décrit et raconté. C'est comment est-ce que nous, après, on diffuse ça, en fait. Moi, j'essaye de le faire à ma petite échelle avec cette émission, tu vois, ou en partageant des artistes à mes amis, enfin, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est un vrai enjeu, en fait, de nos quotidiens.
Tu vois. Mais il me semble que... Je suis pas sûre de ma référence, au pire on coupera, mais il me semble que c'était Lévi-Strauss qui parlait de bricolage, notamment culturel, tu vois. Et en fait, ce terme-là de bricolage, c'est ça qui porte beaucoup les diasporas, en tout cas à l'échelle culturelle, artistique, tu vois. C'est qu'en fait, on bricole toutes nos références, donc des références qui sont celles d'une génération, parce qu'on appartient aussi à une génération et on fait un corps collectif avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont de notre génération, avec nos propres références. Et on a ce souci-là aussi de briser le silence, de briser un certain mutisme et de transmettre inconditionnellement, tu vas donc transmettre entre nous pour se célébrer. Et de plus en plus, et évidemment en vieillissant, en approchant la trentaine, avec la pression sociale, on se dit, en fait, qu'est-ce que moi je vais transmettre à mes enfants, en fait. Et donc ça prend d'autant plus, si vous voulez faire des enfants, c'est pas obligé, mais
encore heureux.
Mais ça prend sens, tu vois, la lumière aussi de ça, en fait. C'est que je suis assez reconnaissante, finalement, d'avoir eu ces bouleversements-là, ces traumatismes-là qui ont fait que j'ai choisi de prendre le chemin de la résilience par la culture et par le savoir artistique, tu vois, via mes études. Et que donc, du coup, non seulement moi, ça m'a légitimisée, donc légitimée,
je pense que ça se dit.
Je suis légitime, en tout cas. Et donc, du coup, je me sens mieux dans ma peau.
Ouais.
Donc ça, c'était une priorité. Et dans un second temps, je me sens bien et à l'aise et légitime. Avec la mémoire de ma grand-mère, avec la mémoire de ma mère, d'avoir suffisamment de matière, en fait, à transmettre à mes enfants. Après, ça peut se transmettre aussi par les sentiments, par le cœur, par les non-dits, tu vois, chacun fait ce qu'il peut. C'est ça, mais...
Mais t'as plus d'outils, du moins, t'as plus d'outils, de capacités.
En fait. Je sens que, en tout cas, en ce qui concerne mon rapport, la relation que j'ai avec ma mère, je sens qu'elle, ça la rassure énormément et ça lui fait beaucoup de bien, en fait.
Ouais.
Genre, elle se sent vachement moins illégitime à en parler. Elle a ce souci, tu vois, de beaucoup plus revendiquer son identité, en fait. Elle l'a toujours plus ou moins revendiqué, mais depuis qu'effectivement, je touche à tout ça, et que, tu vois, j'ai ces considérations-là, et que j'essaye, moi, de créer mes propres mécanismes de résilience et identitaire, du coup, ça fait que, tu vois, ça renoue le dialogue, en fait.
Ce que tu dis, moi, je trouve que ça résonne vachement en moi. Je pense que ça peut résonner en beaucoup de personnes parce qu'en fait, c'est là tout l'enjeu de la transmission culturelle. C'est, c'est rattaché à un sentiment très profond qu'on ressent même physiquement, en fait, de partage, de volonté de partager et en quoi, nous, ça va venir nous nourrir, en fait, sur tous les plans artistiques, culturels, intellectuels, etc. Je pense que c'était une bonne façon de terminer cet épisode, de terminer cette discussion, en fait, avec tout ce dont on a parlé. Moi, je trouve ça très beau, en fait, du moins qu'on puisse en parler de cette manière-là, qu'on ait des dialogues et des questionnements importants sur ces sujets qui sont majeurs dans la construction de notre identité. Et donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous auront écoutés ce soir. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode et que vous irez jeter un coup d'œil à toutes les artistes qu'on a évoquées. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui ont participé. Donc, Tassa, en tant qu'intervenante absolument passionnante. Elodie, toujours présente à la réunion. Nox au montage et Radio Campus pour tous les coups de main, l'opportunité en général. J'espère vous retrouver le mois prochain afin de continuer l'exploration de cette scène musicale vibrante et toutes les problématiques l'entourant. Je vous laisse comme d'habitude avec un dernier morceau absolument iconique, Noir de Cheikh Hamidi.
بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
يا داني وداني دان داني دايمي يا لالا انا وغزيلي بجبل اللقط النوار انا وغزيلي يا لالا انا وغزيلي بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
يا داني وداني دان داني دايني يا لالا انا وغزيلي بجبل اللقط النوار بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
يا داني وداني دان داني دايني يا لالا انا وغزيلي بجبل اللقط النوار انا وغزيلي يا لالا انا وغزيلي بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا
مشعل الجار ولالا وانا وغزيلي في جبل اللقط النوار انا وغزيلي يا لالا انا وغزيلي في جبل اللقط النوار
انا وغزيلي يا لالا انا وغزيلي في جبل اللقط